die before I get old. Talking about my generation. Just my generation, baby. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 88.1 pour une nouvelle édition de votre émission « On va se gêner ». Cette année encore, les élèves du Master Communication et Génération vous accompagnent durant la prochaine heure. Et aujourd'hui, je préfère vous prévenir que les générations sont dans tous leurs états. L'humour, l'amour, la colère, la tristesse et même la honte. On va passer par toutes ces émotions pour vous parler des générations. Plus précisément, nous allons utiliser ces humeurs pour évoquer des notions comme la transmission, l'intergénérationnalité ou les représentations sociales. Ces termes vous paraissent peut-être un petit peu pompeux et trop sérieux, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous endormir, mais bien pour vous intéresser à ces sujets qui nous concernent tous. Mais pour vous parler de ces belles thématiques, je ne serai bien sûr pas seule. Je vous présente donc au micro Cory et Margot.
Salut les filles.
Salut, salut.
C'est donc à trois que nous allons vous accompagner durant la prochaine heure et partir à la découverte des générations. Vous êtes prêts? Alors attachez vos ceintures, échauffez vos zygomatiques et sortez vos mouchoirs. On va gêner saison 3, ça commence maintenant. Alors entrons dans le vif du sujet et commençons par la gêne comme première émotion pour parler des générations avec notre rubrique Malaise TV. This is embarrassing. Like seriously, seriously. No, seriously, seriously. Oh my gosh. Alors l'autre jour, j'ai fait l'expérience d'une malheureuse prise de conscience. Après avoir répondu à une amie, elle a prononcé cette phrase fatidique. C'est ce que ma mère dit tout le temps. Oups. Non pas que ressembler à ma mère soit gênant, enfin j'aime beaucoup ma mère, j'aimerais bien lui ressembler plus tard, c'est une femme forte. Elle me fait d'ailleurs un petit peu penser à ma grand-mère quand j'y pense, mais de là vouloir lui ressembler, enfin...
Ouais Agnès, là t'es en train de te noyer un peu là,
ouais,
non ?
Malaise.
Ouais, malaise.
Malaise.
Oui alors bon, je vais t'aider un petit peu hein. Depuis qu'on est petit, on observe nos parents, ils ont toujours été des modèles sur lesquels on s'inspire pour grandir, et c'est un processus tout à fait naturel. On intériorise les valeurs, les gestes, le langage qui nous transmettent tout au long de notre vie. Ils nous transmettent parfois, même sans le savoir, des attitudes, des manières, sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et il y a une spécialiste thérapeute, Roske Hasseldine, qui nous parle des relations mère-fille en nous disant que les croyances et les attitudes que nous héritons de nos mères, c'est tout simplement parce qu'on les a observées tout au long de notre enfance. Ainsi, ces savoirs et ces valeurs que nous ont inculqués nos parents sont gravés dans chacun de nous. En d'autres termes, les neurosciences confirment ces principes. Si notre cerveau est un ordinateur, les interactions avec nos parents constituent le réglage par défaut, un peu comme Windows. Et lorsque les choses ne fonctionnent plus ou que le stress vient mettre un petit peu son grain de sel dans nos vies, eh ben nos neurones se dirigent vers un chemin familier, implanté dès les premiers stades de notre développement. Enfin bref, la science confirme donc nos craintes. Nous sommes comme des formes mutantes de nos parents.
Non,
pitié, non.
C'est donc pour cette raison qu'il nous arrive de répéter certaines phrases qu'on a entendues de leur bouche. Comme par exemple...
Si ton ami saute d'un pont, toi aussi tu vas le faire.
Je parle pas des autres, je parle de toi.
Attention, le Père Noël te regarde.
C'est le bon Dieu qui t'a puni.
Je vais partir pendant quelques jours, on va voir comment vous allez vous débrouiller. Hein.
Exactement.
J'imite bon. Très bien ma mère.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous dites comme vos parents, les filles ?
Bah alors moi, j'avoue que j'ai pris pas mal de leurs petites phrases pas tout à fait personnelles, comme par exemple « Oui, on n'est pas Rothschild, hein, ok Margot, donc tu te calmes !» Ou alors « Margot, la lumière, on n'est pas à Versailles ici !» Donc ça, c'est des choses que je vais dire très souvent à mes potes quand ils viennent chez moi, quand ils laissent par exemple la lumière allumée dans la salle de bain. Donc c'est vraiment des petits trucs que j'ai pris de mes parents et que je regrette pas trop parce que je trouve que c'est quand même des expressions assez rigolotes.
Oui, moi aussi j'ai pris des petits trucs de ma mère, mais en fait ça me fait plus rire qu'autre chose, ça, c'est des petites phrases toutes faites qui sortent comme ça, c'est plutôt rigolo et même elle en prend de ma grand-mère, alors voilà, ça se transmet quoi.
Alors oui, quand on se surprend à avoir le même vocabulaire que celui de nos mamans, c'est toujours un peu gênant parce qu'on a rarement envie de leur ressembler totalement, même si ça reste quand même un modèle. Et même si nous avons évoqué jusqu'à présent une transmission des parents vers leurs enfants, d'autres formes existent et ça va vous faire plaisir ou peut-être vous faire peur, je sais pas trop, ça dépend de vous. Mais nous aussi, on transmet des choses à nos parents. Et oui, Jamy, plusieurs types de transmissions sont possibles et au final, nous ne sommes pas uniquement des récepteurs, nous sommes aussi des émetteurs. Il existe ainsi autant de transmissions qu'il existe d'interactions. Nous sommes influencés par nos parents, mais aussi par nos frères, nos sœurs et même nos amis. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez hérité de quelques traits de caractère de vos parents, vous restez quand même un individu à part entière.
Ouais, en fait, tu fais super bien, Jamy. Hein.
Ouais, Busted, c'est un peu mon modèle de la vie, en fait, Jamy. Je l'avoue, c'est l'homme.
Je vois ça, je vois ça.
Bon, et du coup, qu'est-ce que vous avez transmis à vos parents, les filles ?
Alors, transmis à nos parents, écoute, moi, quand on arrivait dans la région avec ma famille, il y avait le fameux mot bordelais qui nous fait tant peur quand on arrive, c'est le gavé.
Ah oui, le fameux.
Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, je le disais pas mal au lycée et au final, j'ai contaminé ma mère et mes sœurs.
Quelle grave maladie. Le gavé. Alors moi, par exemple, c'est plutôt mes petits anglicismes que j'ai passés à mes parents. Je suis du genre à inclure des petits mots de temps en temps dans ce que je dis. Donc c'est un peu touchy, ça. Ou alors je me suis fait striker par Facebook. Ou alors il me faut ça ASAP, mais finalement, c'est pas possible. Et donc du coup, ce genre de petits mots, je surprends mes parents à le dire parfois. Donc c'est toujours un petit peu rigolo parce qu'ils le disent avec un accent très très français sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Donc c'est assez rigolo.
Comme quoi, ressembler à ses parents, c'est pas forcément une tare, mais plutôt une base sur laquelle on se construit et une facilité à laquelle on aime bien revenir quand on sait pas trop quoi faire ou quoi dire ou pour se sortir d'une situation qui nous stresse. On se nourrit ainsi de toute notre sphère sociale, des médias, de nos convictions et de nos expériences personnelles tout au long de notre vie. Alors détendez-vous, chers auditeurs, vous ne serez jamais la compie conforme de votre mère. Au pire, seulement quelques flashbacks sont à prévoir. Quand certains sont rassurés de ne pas ressembler à 100% à leurs parents, pour d'autres, comme Margot, c'est un petit peu trop tard car elle est déjà devenue une vieille conne.
Alors moi aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler du monstre que je suis devenue ces dernières années. Un truc un peu dégueu, grincheux, qui râle tout le temps. Et non, je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, je suis devenue... une vieille conne ! Eh oui, je grandis. Chaque année a son lot de changements autant physiques que mentaux. Mes gueules de bois durent 3 jours. Entre une soirée en boîte et une tisane, je préfère prendre une nuit tranquille à 20h30. Et monter mes 3 étages est devenu le seul et unique sport que mon corps accepte. Bref, j'ai 22 ans. Alors oui, je vous entends déjà me dire, mais n'importe quoi, 22 ans, t'es à l'aube de ta vie, quoi. Eh bien, c'est peut-être vrai sur le papier, mais croyez-moi, j'ai l'impression d'être de plus en plus proche de Brigitte Macron que de Rihanna. Je me surprends de plus en plus à avoir ce que j'appellerais le comportement d'une petite vieille de 80 ans, le genre de nana qui va se plaindre de ses voisins dès qu'ils mettent la musique un peu fort après 21h, ou qui va râler sans se cacher du comportement des petits jeunes dans le tramway ou au cinéma, à coup de « Ah, mais... Oh là là, mais dis donc, oh lolo !» Plus ou moins discret.
Tu fais très bien les bruitages, Margot.
Ouais, j'ai fait un bac bruitage, en fait, je vous l'avoue, comme ça. Et déjà, vous voyez comment j'utilise le terme « petit jeune » pour parler des adolescents, alors qu'il n'y a pas bien longtemps, j'étais moi-même en train de rire trop fort dans les transports en commun. En fait, pour être honnête, j'ai l'impression qu'à l'âge auquel certains adolescents découvrent la cigarette ou l'alcool aujourd'hui, moi, j'étais encore en train de jouer aux Sims ou aux Tamagotchi. Et le pire, c'est quand je vois des minettes de 15 ans dans la rue, aussi bien maquillées et coiffées que des blogueuses mode, même si parfois, à mon humble avis, ça se rapproche plus de Lady Gaga que de Enjoy Phoenix. Alors qu'à leur âge, moi, je mettais à peine du mascara et en plus, je me l'enfonçais dans l'œil.
Aïe.
On a tous vécu ça. Hein. Du coup, quitte à critiquer les Jones, je me suis dit que j'allais en parler autour de moi parce que bon, le faire seul, c'est pas très marrant. Et de juger à deux, c'est tellement mieux.
On est là, on est là.
Et là, ça a été la grosse claque, justement, parce qu'on m'a dit, noir sur blanc, oh mais la vieille conne. Alors bon, j'ai pas tellement envie d'être une vieille conne à 22 ans, parce que si c'est le cas, à quoi je vais ressembler à 60 ans ? Je me suis renseignée, je suis allée voir sur internet, j'ai lu des ouvrages et je me suis rendu compte que finalement, bah, j'étais plus ou moins normale.
Ouais, donc être une vieille conne, ça serait normal.
Oui et non. Alors, pour être honnête, ce qui est naturel, c'est de s'offusquer du comportement de la génération suivante. C'est se dire que ce sont des punks, des rebelles, qu'ils sont précoces, qu'ils ont des manières d'être pas vraiment saines. Et c'est l'auteur Bernard Préel qui en parle dans son ouvrage « Génération, la drôle de guerre », dans lequel il explique en fait que les jeunes, pour se différencier des adultes, ils vont créer une contre-culture. Quelque chose qui leur est propre, qui va à l'encontre de celle de leurs parents, pour bien montrer qu'ils ne sont pas les mêmes du tout. Donc les adultes, en voyant cette opposition, évidemment, ils ne l'acceptent pas. Ils râlent, ils critiquent, ils interdisent. Mais une fois que ces enfants deviennent des adultes, leur contre-culture, ils ne la laissent pas derrière eux. Non, non, c'est leur culture. Donc elle devient la culture de base, et celle de leurs parents devient has-been. Et comme la vie est bien faite, ces enfants qui sont devenus des adultes, eh ben ils ont des enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants ? Eh ben ils vont créer leur propre culture avec leur propre code. Tout ça pour s'émanciper. Et les parents, eh ben ils vont râler. C'est un cercle vicieux donc. Et chaque génération s'oppose à la précédente, qui elle-même s'était s'opposée à celle d'avant. Du coup, vieille, d'ici quelques années, pourquoi pas, d'accord. Conne, je vous l'accorde, à certains moments, c'est difficile. mais complètement balade, pas vraiment, juste un petit peu cliché.
Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché.
Bon, je sais pas vous, mais moi, je pense que j'ai eu assez de malaise pour cette émission. Donc je vous propose, allez hop, nouvelle rubrique, nouvelle émission. Passons donc à un sujet un petit peu plus léger avec Cory qui nous propose un instant rigolade, toujours sur Radio Campus 88.1.
Alors oui, on va essayer de se détendre un peu et de rigoler parce qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler du LOL marketing. Vous décrochez un sourire au rayon jus de fruits ou une bonne tranche de rigolade surgelée, c'est le pari fou que se sont lancées certaines marques pour séduire le client autrement. Alors, est-ce que c'est une simple tendance ou une véritable mutation marketing ? À l'ère où la publicité est de plus en plus numérique et de plus en plus refoulée, conquérir le cœur des consommateurs, ben c'est de plus en plus compliqué. J'ai lu une récente étude Yahoo qui démontre que la génération Y est de plus en plus sensible à la question de l'humour. En fait, les contenus suscitant de l'émotion sont donc les plus susceptibles de faire mouche et d'être retenus. Mais il reste quand même une éternelle question. Pouvons-nous rire de tout ?
Ah bah ouais, nous, ah bah c'est
oui,
clair.
Moi, c'est sûr.
Oh. Nous rit de tout, hein, pas de problème. Hein.
Je ne me fais pas de soucis. Alors, le LOL marketing, pour remettre un peu ça en contexte, c'est un concept qui existe depuis toujours, en fait, à l'image de certaines marques comme Carambar. Mais c'est seulement il y a quelques années qu'il connaît un réel essor, porté par un contexte politique, économique et social lourd. Beaucoup comprennent qu'il est essentiel de donner un ton léger aux campagnes pour se démarquer. Alors, on a les grandes marques qui s'y mettent petit à petit, mais c'est surtout les start-up qui portent ce phénomène à son apogée. Face à des entreprises avec une image un petit peu épuisée, quoi de mieux pour renverser la tendance que de mettre des messages courts, authentiques, d'arrêter de se prendre un petit peu au sérieux, en fait, et de se mettre sur le même pied d'égalité que le consommateur et de ce qu'il peut vivre au quotidien. Du coup, la dernière fois que j'ai fait mes courses chez Monoprix, bah, c'était plutôt sympa de lire des petites blagounettes sur mes conserves. D'ailleurs, bah, je culpabilise plus en achetant ma tablette de chocolat, qui est un remède de choc contre la morosité, et j'assume même de me faire mousser un petit peu au réveil, car ouais, je suis plus craquante qu'une biscotte, les filles.
Ils sont quand même forts hein, chez Monoprix. Hein.
Moi, je savais que t'étais plus craquante qu'une biscotte.
Oh, merci Agnès, ça me touche. Ensuite, le LOL marketing, ça devient même un état d'esprit et une culture d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du happiness management.
Ouais, un petit peu, ouais.
Alors en fait, le happiness management, c'est tout simplement le fait d'offrir un cadre de travail un peu plus détendu, un peu plus sympa à ses employés, parce que ça boosterait la créativité et l'engagement. Alors adieu les bureaux gris, bonjour la pelouse synthétique, adieu les séminaires interminables, c'est plutôt championnat de ping-pong entre deux Skype. Et d'ailleurs, des marques comme Innocent ou Facebook ont été citées par le Times dans les 100 entreprises où il faut travailler dans sa vie. Et d'ailleurs, hein, juste point info, tous les matins, ils offrent le petit-déj à leurs employés et ça, c'est plutôt cool.
Moi, je démissionne. Salut les filles, je vais à Facebook. Adieu, au revoir.
Où sont les chocolatines ?
Ouais, c'est ça, chocolatines,
pain au chocolat. On manque de budget, bon, c'est pour bon. Ça.
Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux que ce phénomène prend une ampleur assez déconcertante. En fait, on voit que les réseaux sociaux et notamment le poste de community manager, ça prend pas mal de place, c'est limite indispensable. Est-ce qu'on aurait imaginé il y a quelques années se faire clasher par Carrefour sur Twitter ou même par la SNCF ? Ça, c'est quand même un comble, hein, moi je trouve.
C'est clair.
Et ce, malgré la solennelle pastille bleue. Qui peut affirmer ouvrir son ordinateur aujourd'hui sans tomber sur une vanne, une publicité ou même un mème lancé par une marque ? Et jusque sur les emballages des produits finis, on raconte des histoires drôles de préférence. Hein.
Parce que l'humour, c'est bien quand c'est drôle. Hein.
C'est ça.
C'est préférable, en effet.
Et si on y réfléchit, moi, je me suis quand même dit que le LOL marketing, bah, c'était une grande prise de risque. Parce que l'humour, ça reste quand même subjectif et il est fort possible de ne pas faire rire tout le monde. Du coup, la stratégie, elle doit être bien menée, les mots bien tournés et les codes de la pop culture bien maîtrisés pour faire mouche. Il y a de nombreuses marques qui ont échoué à cet exercice et provoquer le fameux bad buzz. Alors là, sexisme, discrimination, les risques sont grands et ça peut très très vite porter atteinte à l'image d'une marque. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, certains diront que le buzz reste le buzz. Vous en pensez quoi ?
Bah, parfois même, le bad buzz fait plus parler des marques que le bon buzz.
C'est ça, tant qu'on parle de nous, au final,
c'est ce qu'on dit, mais bon.
Certains le provoquent même. Et par contre aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'humour, ça a un prix, en fait. Les packagings où il y a des petits mots drôles qui sont un peu plus originaux que les autres, souvent, les prix sont un peu plus élevés, donc ça, c'est pas top. La blague, ça serait pas gratuit, du coup.
Mais il faut bien payer ces petits humoristes de l'ombre, quand même.
C'est ça. Alors, ne soyons pas dupes, même si l'évolution des stratégies de communication a apporte un vent de fraîcheur sur notre chère société de consommation qu'on aime tant, il semblerait que la génération à venir, elle se contente plus de belles paroles. D'ailleurs, comme toute mode, le LOL marketing, ça commence déjà à se faire devancer, en fait. Et il y a une nouvelle tendance qui arrive, et c'est celle de l'éthique.
Ouh.
En effet, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à rechercher la qualité des produits, à être plus attentifs à la provenance et aussi à l'impact solidaire et environnemental de ce qu'ils mangent, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Alors, on ne se laisse pas avoir comme ça, et du coup, bah, les marketeurs, ils ont encore du boulot pour nous convaincre. Et vous, vous en pensez quoi, les auditeurs ? Sachez qu'on a mis une petite publication sur Facebook et qu'on a hâte de savoir s'il y a un packaging qui vous a plu, déplu. Dites-nous tout.
Et oui, donc du coup, rendez-vous sur Facebook. Il est donc temps de nous séparer quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas, juste le temps d'une petite pause musicale et nous revenons juste après ça. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Campus 88.1. Vous êtes toujours en compagnie de l'équipe On va se gêner qui vous parle aujourd'hui des générations. Nous allons donc reprendre le fil de notre émission avec la prochaine chronique. Après le rire, passons donc à l'agacement. C'est deux coups de gueule qui vous attendent parce que on n'en peut plus. Et oui, on se rebelle contre les représentations sociales qui nous oppressent et contre les modes de consommation qui ne correspondent plus à notre génération. Vous l'aurez compris, c'est la rubrique JPP.
Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service.
Je suis sûre que certaines d'entre vous qui nous écoutent ont déjà entendu ces petites phrases.
L'instinct maternel est présent dans chaque femme. Ah, ces femmes qui ne pensent qu'à leur carrière, mais attention, l'horloge tourne, tic-tac, tic-tac.
et je vous passe les « être mère, c'est naturel » et tout le tintouin. Je ne sais pas vous, mais moi, ces petites phrases, elles ont tendance à sacrément me taper sur le système. Néanmoins, elles relèvent bien la pression qui réside dans notre société à devenir mère. Alors oui, je suis née avec un utérus, mais est-ce que je suis obligée de l'utiliser ? Alors, spoiler alerte, les filles, la maternité est une expérience que je ne souhaite pas vivre.
Oh, quelle honte !
Alors voilà, amenez-moi à la potence pour avoir osé profaner ce concept magnifique qu'est la maternité.
Au bûcher !
Vous devez vous demander, mais pourquoi elle veut pas devenir maman ? Donner la vie, c'est la plus belle chose qui puisse arriver ? Donc, peut-être. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors déjà, les bébés me mettent extrêmement mal à l'aise. Ils sont des espèces de bombes à retardement qui passent d'un état à un autre sans prévenir. Avouez que c'est quand même un petit peu perturbant. Puis même, avant le bébé, c'est la grossesse qui m'effraie. Imaginez que j'ai un être qui grandit en moi, mais juste inconcevable. Puis bon, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi, sous prétexte qu'on est enceinte, pourquoi tout le monde se croit obligé de tripoter notre ventre ? Ce n'est pas parce qu'on a un locataire dans notre utérus qu'on n'est plus maître de notre propre corps quand même. Enfin, je sais pas, ça me paraît aberrant. Et puis surtout, là je me sens totalement à l'ouest quand je vois qu'il y a des gens qui s'extasient de voir des petites empreintes de mains ou de pieds se dessiner à la surface du ventre. Moi, dans ces moments-là, j'ai juste l'impression d'être dans un remake d'Alien.
Voilà, voilà.
Nous rappelons Margot BTS bruitage.
Voilà, bruitage, j'adore faire les bébés.
Mais c'est vrai que c'est dans ma tête, c'est un petit peu ça qui sonne. Voilà, alien avec le petit alien qui sort du ventre là, absolument affreux. Alors pourquoi vouloir à tout prix créer la vie ? Et en quoi ça poserait problème de ne pas vouloir d'enfant ? Pourquoi suis-je obligée d'accomplir cette sorte de destinée qui consiste à procréer pour que l'humanité perdure ? Toutes ces questions me turlupinent et comme beaucoup d'autres femmes, j'ai souvent l'impression qu'aux yeux des gens, ce positionnement pose problème. Pourtant, si on remonte le temps, la vision de la maternité n'a pas toujours été celle qu'on connaît aujourd'hui. En effet, au XVIIIe siècle, la mortalité infantile était monnaie courante et les mères s'attachaient très peu à la progéniture et leur apportaient que peu d'intérêt. Grosse ambiance à l'époque. Heureusement, cette période est révolue et l'enfant a conquis une place de plus en plus importante au sein du schéma familial. Heureusement, peut-être un peu trop. À vous de juger. Par contre, après, on est passé dans un schéma où la femme n'était bonne que pour enfanter, soigner la maison et éduquer les marmots. Donc bon, ça c'était moins cool quand même.
Bon, c'est clair.
Heureusement, aujourd'hui, la femme trouve enfin sa place dans le fonctionnement de la société. Bon, même s'il y a quand même encore du boulot à faire, on conçoit qu'on peut être une mère, une femme active et une maman investie. Alors on l'aura compris, au fil des siècles, le statut de la mère a évolué et on comprend aujourd'hui que le désir de la maternité ne va pas forcément de soi. Pourtant, les jugements persistent. Bizarre. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous pouvons nous épanouir via d'autres schémas que celui de la famille. On peut monter sa boîte, s'engager sur le plan associatif, se rendre utile, aider son prochain ou même lutter pour nos droits. Alors pourquoi nous rappeler toujours que notre horloge biologique va nous rappeler à l'ordre ?
Tic-tac.
Exactement, le petit tic-tac là.
Encore une fois, bac...
Ouais, c'est ça, bac bruitage. Bon, on sait pas d'où il sort ce petit tic-tac. Hein. Et en 2017, on n'aurait pas dépassé ce stade pour pouvoir suivre d'autres aspirations que celle d'être parent. Enfin, je vous dis tout ça aujourd'hui, mais ça se trouve, dans 5 ans, je serai en cloque et la femme la plus heureuse de France. Hein.
Ouais, Agnès en octomème, je te vois bien.
Mon Dieu.
Bref, être mère, c'est du boulot. Et je salue le courage de toutes les mamans de ce pays. Big up à nos mamans, bien
sûr. Maman, je t'aime.
Mais ce n'est pas une obligation d'être mère. Devenir maman, être parent, c'est un engagement, une grande responsabilité, une décision. On ne devrait pas imposer ce choix aux femmes. Et j'estime qu'on devrait être libre d'avoir ou non des enfants sans aucun jugement ni pression sociale. Pas vous ?
C'est mon choix.
Ouais.
C'est mon choix, exactement.
C'est notre projet.
C'est mon projet ! Oh mon Dieu.
Ça fait du bien d'avoir vidé son sac. Donc je laisse donc maintenant la parole à Cory, qui va nous parler d'alimentation dans sa chronique JPP de manger n'importe quoi.
Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour ?
Bon, moi, chacun son truc.
Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs.
Alors dépressifs, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques jours, une grande prise de conscience s'est opérée. J'ai attrapé un article de mon panier des plaisirs. Et après avoir jeté un coup d'œil à l'étiquette, c'est le drame. Impossible de savoir la provenance de la moitié des B6, 4212, glyphosémates qui s'enchaînent sur mon malheureux paquet de biscuits, mais je vous apprends rien. Qui n'a jamais ressenti ce sentiment de culpabilité teinté d'un « ouais, je préfère pas savoir ».
J'avoue.
Eh ben si, aujourd'hui cette ère est révolue. On veut savoir ce qu'on mange parce que JPP ne mangeait n'importe quoi. Branle-bas de combat. Après avoir googlisé mes états d'âme, je me rends compte que je suis déjà légèrement en retard sur le reste du monde, mais qu'en plus de ça, les initiatives pour mieux manger, eh ben ça manque pas. Le mieux manger, c'est pas simplement des régimes qui s'enchaînent sans gluten, vegan, végétalien, végétarien. Non, c'est préserver son corps, son esprit et son éthique socio-économique, et parfois même, contrairement à ce qu'on pourrait penser, son portefeuille. Alors continuons, parce que j'ai mené mon enquête pendant une semaine. Jour 1, le temps des recherches. JPP de manger n'importe quoi, c'est pas vraiment les mots-clés idéaux, mais en tapant mieux manger, manger sainement, on tombe sur des choses intéressantes qui sont loin d'être inapplicables. Je vous l'accorde, vous risquez de finir égaré sur des blogs, des pages de réseaux sociaux totalement culpabilisantes avec des petits plats parfaits, des influenceurs à l'hygiène de vie irréprochable, ponctués de squats, d'abdos, footing, salade verte, muesli. Ils existent ces gens ?
Ben non, c'est faux, Illuminati, ils sont partout.
Et ils sont dans les villes, dans les campagnes. Ne tombez pas dans le piège, ni dans l'excès, bref, chacun son rythme.
Conseil numéro 1, mieux choisir ses produits, pour ça, pas de secret, le bio, c'est un bon début.
Jour 2, le temps des courses. Ok, je vais pas vous mentir, manger mieux et pas trop cher, ben, il faut se lever tôt hein, pour ça.
Ah bon, d'accord, ok, mais dommage. Hein.
Tant pis. Et j'ai même carrément fini au marché. Et très vite, j'ai pas regretté. Parce qu'entre les étals, il y a de la bonne ambiance, des sourires, des produits qui donnent beaucoup plus envie que ces pauvres fruits et légumes tout tristounets du supermarché. Alors ok, ils ont des tailles parfaites, des couleurs parfaites. Ouais, mais bon, moi je trouve pas ça très naturel.
C'est sûr.
Et c'est tellement plus sympa de faire vivre les petits producteurs locaux hein, quand on voit Michel qui affiche fièrement la provenance de ses articles, plutôt qu'une énième multinationale. Bilan, quelques euros de plus, certes, mais à l'arrivée, des petits plats et un goût qui vont vite nous les faire oublier.
Conseil numéro 2, le marché, c'est vers midi quand les commerçants sont plus aptes à parler business.
Là, on va passer au plus important. Le jour 3, le temps de la cuisine. Alors qu'on est une kitchenette avec deux pauvres petites plaques, hein, un lavabo qui se remplit avec la vaisselle entassée depuis 2 semaines et le chauffe-eau prêt à nous cogner la tête toutes les 5 secondes.
Ah, mais t'es venue chez moi en fait, c'est ça?
C'est ça, je me suis infiltrée. Ou alors un laboratoire des saveurs type cuisine Masterchef, hein. Il va falloir apprendre à passer davantage de temps dans cette pièce. Mais c'est pour la bonne cause. Mieux manger, ça ne rime pas qu'avec régime ou restriction. En fait, en cherchant quelques idées de recettes simples sur Internet, on peut commencer par préparer nos recettes préférées soi-même. Ce qui est cool, c'est qu'on contrôle les quantités et qu'on est libre d'en faire un peu plus pour notre lunchbox du lendemain, par exemple.
Conseil numéro 3, ne pas inverser le sucre et le sel.
C'est mieux, non, quand même?
Ouais, ça arrive, hein. Ouais.
Ça sent le vécu.
Au meilleur d'entre nous. Alors, le jour 4, c'est le temps du renouveau. La nourriture, elle est très souvent au cœur de notre vie et de nos pensées. Je ne vise personne, hein. Ça, c'est un sujet essentiel.
J'ai faim.
Mais pour que nos résolutions durent, il faut se poser les bonnes questions. Alors, je vous vois venir, hein. Là, il y a la fin de l'année qui arrive, 2018, tout ça. Les résolutions qui durent 2 semaines, j'en veux pas, hein. Margot, Agnès, vous vous y mettez.
Oups, on est démasqués, Margot.
Mince.
Alors, d'abord, il faut se demander pourquoi on souhaite mieux manger. Pour maigrir, pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, pour des raisons politiques, des allergies, enfin bref, les raisons, ça manque pas. Et elles s'affichent aujourd'hui comme de véritables objectifs personnels. On y va, les gars.
Conseil numéro 4, vous vous sentez fatigué, vous avez des crampes, le teint gris, peu importe votre mal du moment, sachez qu'il existe une réponse dans votre alimentation.
Oui, il y a forcément un produit qui vous aidera à améliorer ça, et naturellement en plus. Je précise que ma grand-mère, elle était quand même ravie de m'apprendre que l'eau infusée au citron et à la menthe, c'était le remède parfait contre la gueule de bois.
Ah, intéressant.
Donc, maintenant, ouais. J'ai adopté presque ça tous les week-ends. Hein.
Ah, bravo, Cory.
Ouais. Alors aujourd'hui, faut faire attention parce qu'il y a quand même certains régimes alimentaires qui sont vendus plus comme des tendances que comme autre chose, en fait. Il faut faire la différence entre le mieux manger pour donner une bonne image de soi et avoir des likes, ou mieux manger pour soi. Donc ça, c'est à vous de voir. En attendant, ne soyons pas pessimistes et voyons l'arrivée de cette prise de conscience collective comme une aubaine. On pourra peut-être petit à petit ouvrir les yeux à ces géants de l'agroalimentaire. Après un règne de la malbouffe, il est évident que les conséquences commencent à se faire sentir et pas seulement sur la balance, notamment sur la planète. Enfin bref, après toute cette semaine d'enquête, vous avez au moins 1000 et une raisons de vous y mettre. Bref, passer au travers des mailles du filet de la société de consommation, ça demande du courage. Mais je vais vous demander un truc. Arrêtez d'insulter les véganes, ok ? Ils ont rien demandé, hein, c'est pas que des mangeurs d'herbe. Essayez de les comprendre et vous pourriez apprendre des choses très intéressantes.
D'accord, Cory, je te promets, je vais faire des efforts. Donc du coup, merci. Merci beaucoup, Cory, pour tous ces conseils. Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous aurez bien pris des notes. Nous allons à présent faire une petite pause musicale dans notre émission On va se gêner. Et on se retrouve juste après ça.
To flee again.
Rebonjour chers auditeurs et re-bienvenue sur Radio Campus 88.1 avec l'équipe de l'émission On va se gêner. Aujourd'hui, nous vous parlons des générations par le prisme des émotions. Donc avant la petite coupure, nous avons pu vous parler de la colère, de la honte et aussi un petit peu de rigolade. Donc à présent, il est temps de passer à des sujets un petit peu plus sombres et un petit peu plus tristes, avec, car c'est l'heure de Bonjour Tristesse, avec la revue de presse qui donne le bourdon de Margot.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Bonjour Tristesse, cela fait bien longtemps que je ne t'ai pas parlé et que tu ne m'as pas écouté. Toi, qui ne me quitte pas ces derniers temps, tu es là, près de moi, et tu me rappelles à quel point nous vivons dans un...
un monde de merde.
Un monde de merde, et oui. Un monde dans lequel le site internet silvereco.fr, immensément visité, je n'en doute pas, par mes confrères Poivre-Sel, s'étonne encore que le 7 novembre 2017...
Chaque génération a une vision différente du travail et de son rapport à l'emploi.
Les baby-boomers sont plus attirés par la carrière, tandis que la génération X est attirée par le salaire et la génération Y par les projets.
Ah !
J'en suis toute retournée. C'est peut-être pour ça que le Figaro titre le 3 novembre 2017 que...
3 ans après leur entrée sur le marché, un jeune sur 5 est au chômage.
Finalement, les projets ne doivent pas fleurir à tout va. Et toujours sur l'emploi, le 14 octobre 2017, le Huffington Post partageait une tragique histoire en titrant
« Pourquoi la génération X veut vivre plusieurs vies à tout prix ?»
Voici un extrait particulièrement dramatique.
Il s'appelle Eric. Il est proche de la cinquantaine. En septembre dernier, il a fait un méchant burn-out dans l'entreprise où il pensait légitimement finir sa carrière. Il sera remplacé par un millennial, un jeune cadre formaté pour conduire la transformation digitale réclamée par sa direction.
L'histoire, en somme, d'un homme méritant, remplacé par un jeune si accro à son smartphone qu'il en est devenu robot, formaté au digital et volant la place d'un homme malade. Si l'histoire me hérisse le poil, Dru, car elle véhicule encore et toujours des clichés, celui de la génération X dépassée, remplacée injustement par un jeune millennial scotché à son smartphone, avec qui, rappelons-le, il est né, car digital native...
Digital quoi ?
Digital native, vraiment. Elle se termine bien pour Eric, car je cite à nouveau...
Il accuse le coup, et pourtant, son licenciement lui apporte un certain soulagement.
Car Eric pourra, comme beaucoup de quinquagénaires, enfin penser à lui, vivre une autre vie. Eric et sa génération possèdent un tiers des ressources et représentent un quart de la population. De quoi réaliser leurs rêves. Cependant, le Huffington Post remet le couteau dans la plaie de la génération X. Car la génération X est coincée entre deux générations, accaparant toute l'attention des médias et de l'économie. Les Y et les seniors dont elle a bien souvent la charge. Les enfants font des études et n'ont pas de travail, tandis que les grands-parents sont malades, au bord de la mort. Pourtant, la Dépêche publie le 6 novembre 2017 une étude qui montre que, finalement, malgré ce conflit interne à la génération X, coincée entre leur progéniture et leurs ancêtres, cette dernière est confiante quant à leur avenir à 51% contre seulement 33% des millennials. C'est pourtant ces derniers qui représentent le futur. Quelle tristesse.
Quel pessimisme, Margot. Ça fait peur à voir.
On a la pêche, là.
J'en suis désolée.
Oui, nous aussi, mais bon. Continuons dans le mélodramatique et parlons de ces vieux que l'on déteste.
On les déteste.
Je suis sûre que certains auditeurs qui nous écoutent ont déjà vécu cette situation. Chaque fois que je suis à la caisse du supermarché, il y a toujours une petite vieille qui est devant moi et qui passe 1000 ans à discuter avec la caissière. Le pire, c'est quand elle paye avec ses petites pièces de monnaie. Dans ces moments, je salue le calme de la caissière qui l'aide à compter une par une ses pièces de 50 centimes pour atteindre le montant à régler. Pendant que toi, t'es là, derrière, tu piétines d'impatience en essayant de garder ton self-control.
Finalement, je vais régler par chèque.
Le sort s'acharne. Puis ces petits vieux, quand même, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là quand il y a le plus de monde dans les magasins. Non mais sérieux, ils passent leur temps à chiller en charentaise. Tu crois pas qu'ils pourraient faire leurs courses à 15h comme des retraités normaux? Non, 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 ils les font à 18h quand il y a le plus de monde dans les magasins.
C'est dingue quand même les habitudes qu'ils ont, hein, comme aller chez le coiffeur 3 fois par semaine, faire leurs courses à 18h. J'ai l'impression que c'est un petit peu leur seule occupation à ces pauvres petits retraités.
Puis il y a aussi ceux qui sont sur la route, hein. C'est agaçant ces petits vieux qui roulent à 70 devant toi quand t'es en retard pour aller à la fac, quoi.
Non mais c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait un complot international de seniors dirigé par Huguette et Raymond de scène de ménage.
Ah, je les adore.
Qui se réunissent le soir dans les ruelles sombres pour faire le bilan de leur journée et concocter de nouvelles actions commando machiavéliques pour nous pourrir la vie. En mode, moi, grâce à moi, il y en a un qui a mis 2 fois plus de temps pour aller au boulot. J'ai pas dépassé les 65, comme on a dit. Je le voyais s'énerver dans le rétroviseur de la voiture et de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ah, le bonheur. Bravo Janine, bien joué. Et pour demain, on fait comme on a dit, on se retrouve à 8h sur le périph. On va parler de nous sur toutes les ondes. Ah. En fait, ils sont plus malins qu'on le croit, hein, ces petits vieux. Et dire qu'un jour, on sera comme eux. Eh oui, les filles, hein, faut pas se leurrer. Hein. Les années vont passer, les rides vont se dessiner sur nos doux visages, et arrivera le jour où ce sera nous, les petites vieilles, qui iront faire les courses à 18h, histoire de voir un petit peu l'agitation de la société, et de voir un petit peu des gens, parce qu'on aura passé la journée toute seule dans notre petit appartement. Ou alors, on ira, oui, plusieurs fois chez le coiffeur, parce que ben, c'est vrai qu'avec notre âge, on aura peut-être un petit peu de mal à se laver toute seule et que, bon, on estime qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi et pour être coquette.
Oh là là, ça y est, je déprime.
Vous voyez, derrière les comportements que nous observons au quotidien, il y a des individus qui vivent seuls et parfois isolés. Alors essayons pour une fois de passer de l'autre côté du miroir pour comprendre ces attitudes que nous jugeons parfois trop sévèrement.
Donc t'es en train de dire que quand on voit des seniors au supermarché aux heures de pointe ou qui passent 20 minutes à discuter avec la caissière, bah c'est parce qu'ils se sentent un peu seuls en fait quoi.
C'est à peu près ça. Surtout que la presse pour seniors dévoile souvent une image jeuniste du senior qui passe son temps à faire des activités en groupe pour cultiver son esprit et son corps parce que c'est important de rester jeune.
La pression.
Exactement, la pression pour rester jeune. Pourtant, derrière les unes des magazines, l'isolement des personnes âgées est un sujet bien réel. En effet, tous les seniors ne sont pas heureux et en bonne santé. Tous les seniors n'ont pas une famille qui vienne leur rendre visite régulièrement. Tous les seniors ne pratiquent pas une activité physique, culturelle ou associative. Tous les seniors n'ont pas des revenus mirobolants et vivent une vie paisible sans problème financier. Parmi toutes les vieillesses vécues dans notre société, certaines peuvent être difficiles à affronter.
Surtout qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux et puis les personnes de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreuses forcément en France quand même.
C'est vrai Margot, l'INSEE annonce même qu'en 2050 en France, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus et les plus de 60 ans représenteraient 31,9% de la population totale alors que cette proportion était de 20,8% en 2005.
C'est dingue hein ?
Ouais. Et ce qui pose problème dès aujourd'hui, ce sont les questions sur les représentations qu'on a des aînés. Jean-Claude Henrard disait que l'image dominante du vieillissement dans la société occidentale est celle de la décrépitude du corps et de la perte de l'esprit.
Ambiance.
Ouais, super. Et que la notion de vieillissement était souvent employée pour faire un élément pessimiste sur l'avenir du pays. Super. Ainsi, dans cette prise en compte de l'isolement des personnes âgées, c'est d'abord une question de représentation qui se joue. Le collectif Combattre la solitude des personnes âgées conclut leur enquête sur l'isolement et la vie relationnelle avec l'idée qu'il faut beaucoup plus de rencontres et de communication pour faire prendre conscience au plus grand nombre de que la solitude existe. Et oui, pour pouvoir ensuite agir, parler et concrétiser avec des actes. Donc, n'oublions pas que la vieillesse n'est pas une fin, mais plutôt la continuité de notre parcours de vie. Il semble ainsi primordial de changer le regard porté sur les vieillesses. Ainsi, les vieux, comme on aime les appeler, sont des personnes à part entière, avec des sentiments, des avis, des rêves, des souvenirs et des projets. Alors les filles, prenez vos téléphones, là, prenez vos téléphones et appelez vos mamies, appelez vos grands-parents et demandez-leur s'ils se sentent épanouis.
Voilà. Je vais l'appeler de suite, là. Allez, c'est parti.
Car un petit coup de téléphone, ça peut changer beaucoup de choses. Et j'ai envie de nous souhaiter une belle vieillesse à nous tous.
Espérons-le, espérons-le.
Donc voilà, après avoir parlé des problèmes des jeunes et l'emploi avec Margot, et des représentations des seniors avec moi, que dites-vous de passer à un thème qui relie enfin ces deux publics ?
Yes !
Ma chronique préférée.
Et même, ouh, le teasing de Cory.
Ouais, 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 ça s'annonce bien là.
Et même toutes les générations pour notre rubrique La La Love, toujours sur Radio Campus. Car oui, l'un des sujets qui unit tous les âges est incontestablement l'amour. Elle court, la maladie d'amour. De 7 à 77 ans, on passe tous par cette phase où l'on rencontre celui ou celle que l'on observe en secret, puis on imagine des tentatives d'approche, et finalement, on y parvient. Le love, c'est un petit peu comme un nuage rose bonbon qui nous transporte et nous rend, avouons-le, parfois un petit peu mielleux. Et la société est remplie de ces petits cœurs roses, et pas seulement pour le 14 février. Les médias n'hésitent pas à s'en saisir sur tous les supports. Dans la presse, la radio, à la télévision comme au cinéma, on a tous envié les pas de danse du duo Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land.
Je plaide coupable.
Aujourd'hui, nous vous proposons donc de partager, toutes générations confondues, un instant La La Love. Mais avant de s'aimer, faut-il encore se rencontrer ? Il y a fort longtemps, l'amour, c'était se marier, fonder une famille, acquérir une situation stable. Aujourd'hui, il est libre et assumé. Mais aussi peut-être un petit peu plus compliqué à trouver. Nous nous sommes toutes les trois intéressées à cette question.
Il est où le bonheur ?
Et c'est pas toujours évident de se souvenir de quand il est arrivé ce bonheur, n'est-ce pas Alain et Marie-Noël ?
Et on s'en souvient plus, il y a tellement longtemps.
Ouais.
Bientôt 50 ans.
Mais après quelques minutes, nos deux compères se souviennent de leur tendre rencontre.
Ben, on était voisins.
Une soirée dansante.
Une soirée dansante, une rencontre, un bal, comme c'est mignon. On n'en fait plus des bals aujourd'hui, hein. Il n'y a plus que celui des pompiers, n'est-ce pas Agnès?
Oui, j'assume très bien d'aller au bal des pompiers, Margot.
chacun son truc. Mais cette rencontre festive fait écho à d'autres, peut-être plus alcoolisées, mais tout autant fêtardes.
Ouais, moi ça me parle plus.
Une soirée, il y a 3 ans.
Sarah a donc rencontré son Jules à une soirée, elle aussi. Comme quoi, jeunes et vieux se mettent d'accord, en soirée, c'est the place to be pour rencontrer l'amour.
Et jeunes comme vieux, on s'est aussi rendu compte que les modes de rencontre peuvent aussi se retrouver, comme François et Emma ou Laure.
Au lycée.
Ouais, au lycée. En première.
Voilà, on était dans la même classe.
Alors, la première fois que j'ai rencontré mon amoureux, j'aurais jamais parié que 2 ans plus tard, ça deviendrait mon amoureux. Parce qu'on s'est rencontrés par le biais de nos meilleurs amis que nous avons en commun.
Et oui, l'âge n'est qu'un nombre. Et grâce à notre petit micro-trottoir, on a aussi voulu vous prouver que peu importe la génération à laquelle on appartient, il arrive que l'on trouve l'amour de la même manière. Et l'un des motifs de rencontre qui se croise le plus, c'est celui de la sphère sociale. Plusieurs couples qu'on a rencontrés nous ont avoué qu'ils s'étaient rencontrés tout simplement grâce à leur quotidien, on était dans la même classe, on avait les mêmes amis. En fait, c'est rassurant de se rencontrer petit à petit, dans un contexte où on peut se voir un peu tous les jours, apprendre à se connaître, et surtout partager notre rapprochement avec les autres, du style « je me suis mise à côté de Mathieu aujourd'hui, t'as pas vu ?» Quand finalement le couple se concrétise, généralement ça marche. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est aussi compliqué à gérer, hein, parce que du coup, quand on a les mêmes amis, eh ben voilà, hein, faut partager.
Et oui, l'amour brise des amitiés. On le sait tous, hein, c'est une maladie contagieuse. Mais bon, sur une note un peu plus positive, on a aussi rencontré Mathieu et Emma, 17 ans.
Via les réseaux sociaux.
Ouais.
Et lesquels, par exemple ?
Instagram.
Donc, ils se sont rencontrés sur le réseau social Instagram. C'est incroyable, non ? Autant se rencontrer sur Facebook, je veux bien. C'est un réseau social basé sur le fait de garder contact avec des gens que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas pour rencontrer des gens. Mais Instagram, à la base, c'est surtout une plateforme de partage de photos. Mais bon, nos tourtereaux le précisent.
Elle a commenté ma photo.
Il est venu me parler. Bon, d'accord, il y a une partie commentaire aussi, et celle des messages privés. Mais bon, avouez que c'est étonnant, non ? Après, c'est vrai que 39% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Donc ça en fait du monde quand même à rencontrer. Et le blog du modérateur nous dit d'ailleurs que rien qu'en France, les utilisateurs de moins de 25 ans passent en moyenne 32 minutes par jour sur l'application. Et j'ai vu dans le Parisien Magazine que 28% des 18-25 ans sont sur un site de rencontre. Près d'un quart des jeunes tentent d'y trouver l'amour. Mais bon, pas sûr que ça marche, hein, parce que finalement, entre 2005 et 2013, seulement 9% des couples se sont connus via un site de rencontre. Aïe aïe aïe.
Après, il reste autre chose, hein. Moi je vais vous parler du coup de foudre. Alors le coup de foudre, pour certains, c'est aussi rare qu'une sorte de Pokémon un peu, hein, c'est un grand mystère. Le coup de foudre, il n'arrive pas à tout le monde, mais Serge et Bernadette ont eu la chance de le vivre.
Oh là là !
Waouh !
Oh là là ! Ma mère tenait un magasin, mon futur époux traversait au milieu d'une avenue, enfin, l'avenue où était le magasin de ma mère. Je l'ai vu en face, c'était le coup de foudre.
Ouh là 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 là, la chance Bernadette, tu me fais rêver. Mais parfois, les histoires, ça peut aussi avoir des débuts inattendus, comme Sarah et Laure.
J'ai trouvé insupportable et... Mais bon, voilà, finalement...
Et il était beaucoup trop jeune, et il était beaucoup trop stupide, et il était beaucoup trop anglais. Et voilà, 15 ans plus tard, c'est mon amoureux.
Alors le coup de foudre, on ne sait pas trop ce que c'est souvent, donc j'ai essayé d'aller voir dans le Petit Larousse une définition, et ça serait tout simplement un amour soudain contre lequel il est difficile de lutter. Alors le coup de foudre, on est beaucoup à en rêver, même à l'attendre, tant et si bien qu'on se demande même s'il existe en fait. C'est un peu un mythe, 7 milliards d'individus sur Terre, il faut être patient quand même. Moi je dis que le coup de foudre, il est quand même présent partout, mais surtout au cinéma. Coup de foudre à Notting Hill, coup de foudre à Bollywood, à Manhattan, le prince charmant sur son cheval blanc, on aura tout vu, hein, ça a inspiré du monde et des générations. Tant et si bien qu'on se pose pas mal de questions sur lui, et surtout, est-ce qu'il dure ce coup de foudre? Parce que aimer quelqu'un au premier regard, c'est l'idéaliser immédiatement, sans vraiment le connaître au fond, donc c'est peut-être pas aller un peu vers la déception. Moi je pense que s'il existe, c'est pour être un petit peu magique en fait, que ce soit une sorte de connexion, un super wifi, avec la bonne personne, que ce soit physique et morale. Ce qu'on oublie aussi, c'est que le coup de foudre, il n'est pas réservé qu'aux célibataires. Il y a même des personnes qui disent l'avoir eu en étant en couple, même mariée. Et je vous passe le enceinte.
Corrie, la rubrique Malaise TV, c'est fini. Hein.
Ouais, là, on va pas s'attarder. Enfin bref, le coup de foudre, il peut aussi faire peur. Moi, ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'il est unique? On dit que la foudre, elle frappe jamais deux fois au même endroit. Donc c'est un peu la pression, quoi. En gros, t'as pas le droit de te rater. Et ce qui me fascine aussi, c'est certains couples qui s'engagent immédiatement, ils n'hésitent pas en fait, à peine quelques semaines ou quelques mois après, on s'installe ensemble, on se marie, on fait un enfant, juste en suivant leur intuition amoureuse comme ça. Moi ça me paraît assez dingue quoi, j'espère qu'ils finissent pas dans confession intime ces couples après. Alors, plus concrètement, de nombreux scientifiques se sont penchés sur la question pour tenter de prouver que oui, il existe. Hein. D'ailleurs, il y en a un, la coup de foudre, si vous voulez le toucher un peu.
Ah oui, regardez, je veux le toucher,
doux,
oui.
Hein, voyez.
Il est tout moelleux.
Enfin bref, comme je vous le disais, il se manifeste par des réactions physiques mesurables. Papillons dans le ventre, yeux qui pétillent, sourire béat, frissons, rougeur, palpitations cardiaques.
Oh là là, mais c'est une maladie en fait, c'est une crise cardiaque, c'est pas un coup de foudre ça. Hein.
Ouais, voilà.
Attention à ne pas mélanger les deux. Hein.
Ça crée de l'adrénaline et ça stimule les neurones, en tout cas ça c'est certain, mais il reste quand même un sacré mystère. Est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre? Vous avez vu des gens qui ont vécu un coup de foudre, vos parents? Enfin bref, nous on a envie de savoir, donc on vous donne rendez-vous sur Facebook pour nous raconter tout ça.
Alors, l'amour, on le trouve quand on ne l'attend pas. Les opposés s'attirent. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il existe autant de proverbes qu'il n'y a d'histoire. Mais quel que soit votre horoscope de l'amour ou quelle que soit votre citation favorite, dites-vous bien...
Oh bah soyez pas triste, ça viendra, chaque poids son couvercle.
Merci Zézette pour ce conseil. Et c'est donc avec cette bonne dose d'amour que nous concluons notre émission.
Oh non !
Eh oui les filles, je suis désolée mais toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère donc que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris plein de choses sur les générations. Notamment que c'est normal de parler parfois comme ses parents, qu'il faut essayer de porter de nouveaux regards sur les jeunes, les femmes ou les seniors. Nous sommes tous des individus à part entière et nous avons tous notre propre expérience de vie.
Ah, c'est beau, un arc-en-ciel.
Exactement. Alors, finis les clichés sur ces publics. Et n'oubliez pas que le fossé qu'on imagine bien trop souvent entre les générations est loin d'être insurmontable. Toutes les générations peuvent se mélanger et peuvent être unies par des sujets et des questions semblables, comme l'amour, dont nous avons parlé dans notre dernière chronique. Nous remercions ainsi chaleureusement Radio Campus.
Merci.
Merci.
De nous avoir accueillis dans leur studio. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés durant l'heure qui a suivi.
Vous êtes les meilleurs.
Du coup, retrouvez l'émission On va se gêner l'année prochaine avec une nouvelle équipe et de nouvelles thématiques sur les générations. Au revoir.